Je vais essayer de parler très lentement. Il est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu unit, mais pour la cause de l'Évangile, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de problème. Je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 11, un chapitre qui parle des héros de la foi. Et le champion dont nous allons parler aujourd'hui est un homme remarquable qui s'appelle Enoch. Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parût plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. En d'autres mots, Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare, après avoir été enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux ou celui qui le cherche. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, te remettre ta parole. Nous voulons que cette parole, Seigneur, elle soit efficace dans nos propres vies. Que tous et chacun ici ce matin, nous puissions avoir la certitude, la conviction au plus profond de nous-mêmes que c'est toi qui nous as invités. Toi qui nous as invités à te rencontrer à travers les chants, à travers ta parole, à travers la Sainte Cène. Et non seulement te rencontrer, mais te connaître et faire en sorte que tu deviennes un participant actif dans notre vie. Seigneur, nous voulons, à travers le témoignage d'Enoch, faire en sorte que ce témoignage devienne aussi le nôtre, afin, Seigneur, que nous puissions être cette lumière que tu nous demandes d'être dans ce monde, afin que nous puissions être trouvés agréables à tes yeux et participer à l'enlèvement lorsque tu reviendras nous chercher. Parle à travers ma bouche ce matin, Seigneur, que l'homme puisse s'effacer et que, Seigneur, ton esprit puisse prendre toute la place qui lui revienne, parce que ton esprit est vie, parce que ton esprit est vérité. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que je te le demande. Le peuple de Dieu dit Amen. Nous venons de lire le commentaire d'une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je vous invite maintenant à tourner dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse, chapitre 5. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous pouvez avoir l'impression de lire la chronique nécrologique d'un journal. Regardez la dernière partie du verset 8. « Puis il mourut. » Regardez la dernière partie du verset 11. « Puis il mourut. » « Puis il mourut. » Regardez la dernière partie du verset 14. « Puis il mourut. » Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Chapitre 5 de Genèse. Tous ces gens dont les noms apparaissent dans Genèse chapitre 5 ont vécu sur cette terre et ils sont tous morts, sauf un dont le nom se dresse comme un oasis dans le désert, et c'est celui d'Enoch. Lisons maintenant ce que nous apprenons sur Enoch au verset 21 et 24. du même chapitre. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu, c'est-à-dire vécu en communion avec son Dieu. 300 ans. Et il eut d'autres fils et d'autres filles. Enoch vécut 365 ans. Il marcha avec Dieu, mais il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva auprès de lui. Aucun mot sur sa mort, frères et sœurs. Nous avons lu au tout début dans le Nouveau Testament qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort. Dans le livre de la Genèse, Enoch est une image, une prophétie de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire qu'Enoch est monté au ciel sans mourir. Amen. Alors, si on se pose la question, parce qu'on est nouveau, on se dit, c'est possible que Dieu nous enlève un jour? Eh bien, on a des témoignages dans l'Ancien Testament. On a entre autres Enoch et on a ensuite le prophète Élie. On en a au moins deux. Alors, si Dieu a été capable d'en faire décoller un pour le faire monter auprès de lui, il est capable de faire monter n'importe qui, il est capable de faire monter son Église, il est capable de faire monter tous ceux qui lui appartiennent et qui lui sont agréables. Amen. Enoch nous rappelle qu'un jour, il y aura l'enlèvement des chrétiens. Êtes-vous prêt pour l'enlèvement ce matin? Êtes-vous prêt pour le retour de Jésus? Êtes-vous prêt à être enlevé comme cela est arrivé un jour à Enoch? Attendez-vous avec impatience ce jour où Jésus reviendra, où nous serons tous enlevés ensemble et transportés sur des nuées, nous dit l'apôtre Paul. Je peux affirmer que le jour où Jésus reviendra sera un jour glorieux pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Frères et sœurs, ce matin, mon ami qui est dans cette salle ce matin, est-ce que comme Enoch, tu marches avec Dieu? Pas est-ce que tu as été baptisé, pas est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Aujourd'hui, ce matin, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis chrétienne, toi qui es entre les deux, est-ce que ta marche reflète finalement que Jésus règne dans ta vie? En fait, c'est ce que Dieu veut de vous, c'est ce que Dieu veut de moi, plus que toute autre chose, que nous marchions simplement avec lui. Rappelez-vous les paroles de Michée. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous appelle à marcher avec lui parce que lorsque vous marchez avec Dieu, cela lui est agréable, parce que cela le glorifie, parce que cela démontre que Dieu est vivant, non seulement à travers l'univers, mais dans vos propres vies. Cela plaît à Dieu. Est-ce que ta vie plaît à Dieu ce matin, mon frère, ma sœur? Par conséquent, qui est celui qui marche avec Dieu? C'est-à-dire, qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être agréable à Dieu? Il y a quatre points que j'aimerais rapidement regarder ensemble ce matin. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui, premièrement, qui vit par la foi. Genèse chapitre 5, verset 24, Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit, c'est-à-dire que Dieu l'a enlevé. Puis dans Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6, il est écrit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement. Et il est dit au verset 7, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Non seulement il est évident, frères et sœurs, qu'il faut avoir la foi pour marcher avec Dieu, mais c'est la première chose qu'il faut avoir pour pouvoir marcher avec Dieu. Et où a-t-il reçu sa foi, Enoch? D'où vient la foi? Paul nous dit que la foi vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi il est important de dire aux gens que nous rencontrons, lisez la Bible, lisez la Bible. Combien de gens sont venus au Seigneur en lisant la Bible? Combien de gens, en volant des Nouveaux Testaments que les Gédéons déposent dans les hôtels et dans les hôpitaux, combien de gens, en les volant, en les lisant chez eux par la presse, sont venus à la connaissance de Jésus-Christ parce qu'ils ont lu une partie de la parole de Dieu? Lisez la Bible, c'est ce qu'il faut dire aux gens, lisez la Bible. Vous allez trouver Dieu, celui qui me cherche me trouve, dit le Seigneur. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que Jésus a fait dans nos vies. Et la parole, elle nous dit ce que Jésus peut faire dans nos vies, ce que Jésus promet de faire dans nos vies. Et la parole, elle sépare ce qui est bien et ce qui est mal. La parole, elle nous donne la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Pourquoi il y a des chrétiens qui baignent continuellement dans le péché? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont continuellement dans la défaite? Parce qu'ils ne lisent jamais leur Bible. Ils sont toujours en train de lutter avec leur vieille nature. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas 56 solutions. C'est la parole qui purifie, c'est la parole par le Saint-Esprit qui sanctifie. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous êtes comme au tout début de votre conversion. Et vous ne pouvez pas connaître, approfondir votre connaissance de celui qui est la parole. Et quand on aime quelqu'un, frères et sœurs, on cherche à vouloir le connaître. Connaître ses pensées. Connaître ce qu'il veut faire dans notre vie. Connaître ce qu'il peut faire dans notre vie. Connaître ses capacités. Quand on rencontre une femme, quand on rencontre une jeune fille, quand on rencontre un jeune homme, on dit « prends le temps de le connaître ». Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. En tant que chrétien, on doit prendre le temps de connaître notre Seigneur Jésus. Et le temps, Paul nous dit « rachetons le temps ». Le temps, il est court. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'entendez pas la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais avoir la foi, vous ne pourrez jamais arriver à marcher avec Dieu, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important chaque jour d'avoir ce rendez-vous avec celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Il ne faut pas croire qu'Énoch ne connaissait pas la parole de Dieu, frères et sœurs. Chers amis, Énoch était un prophète. Voyez ce qui est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 14. Le seul chapitre qu'il y a dans Jude, un des plus courts livres du Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. Jude, verset 14. Voici ce qui est écrit. C'est Énoch, septième descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet, prophète, en disant, « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers. » Énoch, ce prophète, prophétise, prédit que Jésus reviendra avec son armée. Il a cette révélation de Dieu et il prophétise. Nous parlons ici d'un prophète qui vivait à la même époque qu'Adam. Imaginez, il lui a été permis de voir et de prophétiser dans le labyrinthe du temps que Jésus-Christ viendrait un jour avec ses saints anges. Et c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on lit ici. Je vous rappelle qu'il vivait à la même époque qu'Adam. En fait, Adam était âgé de 622 ans lorsque Enoch est né. Ce qui signifie qu'Adam était juste dans la force de l'âge, puisqu'il a encore vécu 308 ans par la suite. Enoch et Adam avaient vécu à la même époque. Ayant vécu à la même époque, il me semble normal. J'en fais pas un dogme, hein? C'est mon point de vue, je peux rêver. Il me semble normal de penser qu'Enoch et Adam ont peut-être pu parler ensemble un jour. Vous êtes sceptique? Pouvez-vous imaginer Enoch et Adam en train de parler ensemble? Rappelez-vous qu'ils ont vécu à la même époque. Septième génération, hein? À la même époque et ce pendant des centaines d'années. Imaginez Enoch qui dit, qui rencontre Adam, qui dit, « Hey, Adam, viens ici. J'aimerais te poser une question. Peux-tu me dire, Adam, comment c'était dans le jardin d'Éden? Allez, Adam, dis-moi. Que ressentais-tu lorsque tu marchais avec Dieu dans le jardin, Adam? Dis-moi, Adam. » J'imagine Adam, les yeux pleins d'eau et la voix toute tremblante, lui dire, « Oh, Enoch, nous marchions un à côté de l'autre dans le jardin. C'était merveilleux. Nous avons traversé de magnifiques forêts ensemble.
Nous marchions la main dans la main, nous parlions et nous rions ensemble. Et Dieu m'enseignait. Nous avions un temps de communion incroyable. Enoch, c'était le paradis de marcher avec Dieu. Mon frère et ma sœur, c'est toujours le paradis encore aujourd'hui de marcher avec Dieu. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu ne marches pas avec Dieu, c'est l'enfer pour toi. Parce que tu connais la vérité, tu ne suis pas la vérité. Mais ça demeure toujours le paradis de marcher avec Dieu. Quelle perte de perdre ce paradis. Quelle perte de vivre dans la brouillard, alors que Dieu veut que nous marchions la main dans la main. Dieu veut que nous marchions dans les pas de Jésus, nos frères et sœurs. Quelle perte! Enoch a entendu la voix de Dieu. Il connaissait Dieu. Il est devenu un prophète de Dieu qui marchait par la foi avec Dieu. Possédez-vous cette sorte de foi ce matin, frères et sœurs? Mon but n'est pas de vous condamner, absolument pas. Ça me parle, ce message. Je l'ai préparé, ça me parle. Premièrement, ça m'a parlé et ça continue à me parler. Mais possédez-vous cette sorte de foi ce matin qui vous permet de dire, au moment où j'entends ce message, au moment où j'entends Dieu me parler, je peux dire que je marche avec lui. Je peux dire que je lui suis agréable. Là où vous êtes ce matin, est-ce que vous pouvez prononcer ces paroles dans votre cœur? Comme ce fut le cas pour Enoch, frères et sœurs. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que vous sortiez de ce lieu en disant, Jésus-Christ est maintenant devenu une réalité dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je marcherai avec lui, je parlerai avec lui et je lirai sa parole pour entendre ce qu'il veut me dire. Si ce qui est agréable à Dieu, c'est vivre par la foi, deuxièmement, ce qui est agréable à Dieu, c'est de vivre en communion avec lui. Remarquez encore une fois ce qui est écrit dans Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans et il eut d'autres fils et des filles. Rappelez-vous maintenant ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé afin qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parût plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Enoch marchait avec Dieu, et marcher avec Dieu, cela signifie que c'est quelqu'un qui est en communion très étroite avec son Dieu. Rappelez-vous Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et l'Éternel, ce que l'Éternel veut. » Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est-à-dire que tu agisses comme Dieu le demande. Que tu aimes la miséricorde, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que ce soit lui qui occupe toujours la première place. Pas Jacques et Dieu, mais Dieu et Jacques. Un esprit de reconnaissance envers celui qui tient notre destinée entre ses mains. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il quitté sa gloire céleste pour venir sur terre? Nous savons que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et qu'il est mort à cause de nos péchés, et que Dieu l'a ramené à la mort pour nous rendre justes devant lui, pour nous justifier, nous rendre justes devant lui. Pourquoi avez-vous été rachetés? Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Demandez à la plupart des gens, pourquoi Dieu, après les avoir sauvés, les garde sur terre, et vous aurez souvent comme réponse, eh bien, pour le servir. Chers amis, si Dieu voulait des gens pour le servir, il pourrait trouver des gens autrement plus fiables que vous et que moi. Autrement plus fiables, autrement plus loyaux que vous et moi ce matin. Les anges le servent mieux que nous, et ils lui obéissent autrement que nous pouvons lui obéir. Les anges, s'ils sont de parfaits serviteurs sur qui Dieu peut compter en tout temps. Dieu ne cherche pas à faire de nous des érudits. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Laissez-moi terminer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Parce que c'est à partir du moment où on marche avec lui que Dieu peut nous utiliser pour le servir. Souvent, on fait le contraire. On vient au Seigneur, on veut tellement le servir. C'est comme si on voulait se racheter de nos péchés. On veut tellement se racheter de tout le mal qu'on a fait avant. Mais on oublie que Dieu demande, pour qu'on lui soit agréable, qu'on marche avec lui. Et après, il nous utilise pour la gloire de son nom. Mais tout de suite, on vient au Seigneur. Et c'est pour ça que Paul, il dit, donne pas de responsabilité à ceux qui viennent de venir au Seigneur. Ils risquent de tomber dans le piège de vouloir racheter leur péché, d'avoir le cou gros comme ça. Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Si nous vivons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous dit l'apôtre Jean, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Combien il est apaisant et réconfortant de marcher dans ce pèlerinage terrestre avec Jésus-Christ. Une troisième chose concernant la vie d'Enoch, il a vécu par la foi, il a vécu en communion avec Dieu et il a vécu en demeurant fidèle à Dieu, frères et sœurs. Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans. Et on trouve ça dur, nous. Ça arrive, hein? On vient au Seigneur à 50 ans, puis on se dit, je meurs à 65, 15 ans. C'est long, suivre le Seigneur. C'est long de marcher avec le Seigneur. C'est long d'être fidèle avec le Seigneur. Enoch a marché pendant 300 ans avec le Seigneur. Bon, on peut dire que les années n'étaient pas les mêmes, mais je tiens à vous dire qu'après certaines recherches, est-ce qu'on m'a enseigné à la faculté que si les années aujourd'hui sont de 365 jours, avant qu'on utilise notre calendrier, les années étaient de 360 jours. Donc, on peut y enlever 5 jours par année sur les nombreuses années qu'il a vécues. Mes frères et sœurs, Enoch a marché avec Dieu pendant 105 900 jours. Un bail, hein? Et il fut trouvé agréable à son Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les jours faciles comme dans les jours difficiles. Dans les jours de joie comme dans les jours de tristesse. Enoch marcha avec Dieu. Et sa marche ne s'est pas faite à l'intérieur d'un monastère. Il avait une famille. Il avait un travail. Il avait une maison. Il avait une femme. Il avait des enfants. Il avait tout cela. De plus, frères et sœurs, il ne l'a pas fait à une époque qui était facile. Il ne l'a pas fait à une époque où tout était facile, frères et sœurs. Où le monde aimait Dieu. Il vivait au milieu d'une génération perverse et corrompue. En fait, il a vécu dans une grande période d'apostasie. Il a vécu à une époque que la Bible appelle « au temps de Noé ». Une époque où les hommes étaient de plus en plus malfaisants sur la terre, nous dit le texte biblique, et dont toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement à faire le mal. Hey, ça ne ressemble pas à notre époque, ça, frères et sœurs. Une époque où les gens étaient tellement méchants que Dieu avait décidé de balayer les hommes de la terre. Vous dites, oui, mais pasteur, Enoch, il n'avait pas affronté tous nos problèmes. Il n'y avait pas autour de lui toutes sortes de gens pour l'empêcher de vivre comme Dieu le demande. Frères et sœurs, ne me dites pas que vos problèmes et les gens qui vous entourent vous empêchent de marcher avec Dieu. Vous vous dites peut-être, pasteur, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes dans le ministère, vous n'avez pas de problème. Est-ce que je peux vous transférer ce matin certains de mes problèmes? Je vis certains problèmes. Vous faites face à certains problèmes. Adam a vécu de gros problèmes. Nous faisons face tous un jour ou l'autre à des problèmes. Et Enoch a lui aussi eu sa part de problèmes. Mais Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, 105 900 jours, à une époque de grande apostasie. Et il est écrit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi en sera-t-il lorsque Jésus reviendra, frères et sœurs. Voici la dernière chose concernant notre marche avec Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, c'est celle qui rend témoignage que Dieu est une réalité dans sa vie. Hébreux chapitre 11, verset 5. Remarquez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Il est tellement évident que cet homme était un témoignage pour Dieu. C'était un prophète. Sa marche avec Dieu parlait aux gens de son époque qui vivaient dans l'apostasie. Je vous rappelle ce que Jude écrit au verset 14. c'est Enoch, septième descendant d'Adam, en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé en leur sujet en disant, « Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers. » Frères et sœurs, est-ce que vous savez à quel moment Enoch a décidé de marcher avec Dieu? En lisant les Écritures, est-ce que vous savez à quel moment Enoch a commencé à marcher avec Dieu? Genèse chapitre 5, verset 22. Il semble que ce soit à partir de 65 ans. C'est-à-dire lorsque quelque chose de particulier, un événement particulier est survenu dans sa vie. C'est-à-dire lors de la naissance de son fils, Mathusalem. Il est écrit dans Genèse chapitre 5, verset 22, « Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu. » Il a quand même vécu dans le monde, Enoch, hein? Pendant 65 ans, hein? Encore que moins que la majorité des gens ici. Que savons-nous maintenant de Mathusalem? C'est celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Hein? Vous dites la même chose qu'au Québec ici. Hein? Il va vivre aussi vieux que Mathusalem. Vous dites ça ici. Hein? Ah ouais. J'espère que non, quoi, pas dans le monde dans lequel on vit. Hein? C'est celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre. En fait, il a vécu 969 ans. Permettez-moi de vous dire ce que Mathusalem, ou dans l'hébreu, Methuselah, veut dire. Méthus, ça signifie mort, et Shéla, ça signifie apporter. Donc, son nom signifie, Mathusalem, ça veut dire sa mort apportera. Pouvez-vous imaginer un enfant qui s'appelle sa mort apportera? Hey, sa mort apportera, viens ici. Ah, c'est pas comme Samuel, ni comme Jacques. Jacques, j'ai pas un bon souvenir. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est Jacob. Hein? C'est un fou, un voleur, un menteur. C'est vrai que c'était l'ancien Jacques, ça. Gloire à Dieu que le Seigneur m'a purifié et racheté. Voilà. Pouvez-vous imaginer un enfant qui s'appelle Mathusalem? Qu'est-ce que sa mort va apporter, frères et sœurs? Elle va apporter le déluge. Le nom de Mathusalem prédit que Dieu va apporter un jugement sur la terre. Lorsque Dieu s'apprête à envoyer un jugement, il envoie toujours dans un premier temps un avertissement. Amos nous le rappelle dans son livre. Il dit ceci, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le Seigneur ne fait rien sans avoir averti d'avance ceux qui lui appartiennent. Dans sa parole. Voilà pourquoi il est autant important que nous soyons prêts au retour de Jésus. Dieu, dans son amour, dans sa grande générosité, dans sa grande bonté, nous dit, voici les signes qui précéderont le retour de mon Fils. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce qu'au moment où mon Fils reviendra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans l'Église, des gens vendront la peau de leurs frères et de leurs sœurs pour sauver la leur. Les gens mentiront pour sauver leur peau. Si Jésus revenait aujourd'hui, ce matin, combien, levez pas la main, combien la certitude à 100% que leur place serait libre si Jésus revenait ce matin. Parce que la vie qu'il mène ce matin, c'est une vie qui est agréable à Dieu. Frères et sœurs, on ne négocie pas avec l'éternité. Il y a deux choix, c'est le ciel ou l'enfer. On ne négocie pas. On pourrait se présenter devant Dieu en haut et pleurer. Et Dieu dira, « Tu as méprisé ma grâce. Tu as méprisé ma grâce. Tu as craché sur mon Fils qui est mort pour tes péchés. Tu as renié la résurrection, l'espérance à laquelle tu étais promis. Et Dieu va ainsi révéler au prophète Enoch à travers le nom de son bébé qu'un déluge surviendrait lorsqu'il mourrait. Vous pouvez imaginer, frères et sœurs, qu'à chaque fois que Mathusalem est tombé malade, combien Enoch devait être particulièrement inquiet. Son fils lui rappelait l'avertissement que Dieu lui avait donné à travers son nom. « Écoute, ce monde ne vivra pas plus longtemps que ton fils. » Est-ce que vous savez maintenant pourquoi Mathusalem a vécu aussi longtemps que 969 ans? À cause de la grande patience de Dieu, frères et sœurs. L'apôtre Pierre nous rappelle que le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme quelques-uns le croient, mais qu'il use de patience envers ce monde, parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Au contraire, il veut que tous arrivent à la repentance. Ce monde qui vit dans un athéisme épouvantable, ce monde qui baigne dans le péché, ce monde qui crache à la face du Seigneur jour après jour, ce monde qui piétine, qui écrase ses commandements, ce monde qui se moque de la croix jour après jour, dans sa grande patience, Dieu retient le retour de Jésus parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu, frères et sœurs? Il y en a juste un qui nous tombe sur les nerfs pendant 20 minutes et on ne voudrait pas le voir pendant 2 semaines. Et on regarde la conduite des gens de ce monde, pourris, païens. Et Dieu retarde le retour de Jésus, parce que dans sa grande patience, nous dit la parole, il veut que le plus grand nombre possible, il veut que tous parviennent à la repentance. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel Dieu merveilleux nous avons! Et en retour de ce qu'il a fait pour nous à la croix, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de faire des sacrifices, parce que ce sacrifice est suffisant. Il nous demande simplement de vivre une vie qui lui est agréable. Quel Dieu merveilleux, frères et sœurs! C'était une période de grande apostasie et Dieu voulait que le plus grand nombre possible soit sauvé. C'est probablement la raison qui l'a poussé à manifester sa grâce envers ce monde corrompu et qui a prolongé les jours de Mathusalem jusqu'à l'âge de 969 ans. Mais lorsque Mathusalem est mort, le Dieu envoya le déluge. Je vais vous faire une petite leçon d'arithmétique ce matin. Bon, pour vous prouver ce que je dis à propos de Mathusalem, un petit exercice d'arithmétique. Mathusalem, si vous retournez dans Genèse chapitre 5, verset 25, il est écrit ceci. Genèse chapitre 25, verset 5, voyons, chapitre 5, verset 25. Mathusalem a eu son premier enfant à l'âge de 187 ans. Vous retenez le chiffre, 187. Lisons maintenant les versets 28 et 29 du même chapitre. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Donc, le fils de Mathusalem, Lémec, eut un fils. Et plus tard, Mathusalem a eu Lémec à l'âge de 187 ans, et 182 ans plus tard, il devient grand-père. Et si vous additionnez 187 plus 182, ça fait 369. Comment s'appelait déjà le petit-fils de Mathusalem? Il s'appelait Noé. Vous retenez le chiffre 369. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 7, verset 11. Genèse chapitre 7, verset 11, pour ceux qui ont leur Bible. L'année où Noé eut 600 ans, le 17e jour du deuxième mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les ventes du ciel s'ouvrirent en grand. Ce verset nous parle du déluge. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mathusalem qui devient père à 187 ans. 182 ans plus tard, il devient grand-père. 187 plus 182, ça fait 369. Au moment où Noé a 600 ans, le déluge. 600 plus 369, ça fait 969. Donc, Mathusalem, le jour où il est mort, Dieu a envoyé son jugement sur la terre. Quel enseignement retirons-nous de tout ceci? Quatre choses. Premièrement, cela nous rappelle combien nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Quand j'entends des chrétiens qui me disent « Oui, mais fais attention, là, ça c'est écrit à l'époque, à l'époque, à l'époque. Fais attention, interprète pas ça littéralement. » Eh bien, dans les cours d'herméneutique, vous devez interpréter littéralement jusqu'à preuve du contraire et non pas le contraire. La parole, d'abord, dans un premier temps, si les enfants sont capables de la lire, on doit d'abord commencer à la lire de façon littérale. Si on commence à lire ça de façon allégorique, imagée, spirituelle, il n'y a pas un enfant qui est capable de lire ça, quoi. Donc, la parole, premier principe d'interprétation des Écritures, jusqu'à preuve du contraire, c'est de façon littérale. Et ça va nous éviter de partir dans toutes sortes de dérapages. Et de spiritualiser le retour de Jésus, plutôt que le retour de Jésus soit une réalité. Plutôt que de spiritualiser l'enfer, alors que l'enfer est une réalité. Plutôt que de spiritualiser le paradis, alors que le paradis est une réalité. Deuxièmement, cela nous rappelle le grand amour et la grande patience de Dieu. Cela nous rappelle que la grande patience que Dieu, dans sa grande patience, a des limites. La grande patience de Dieu a des limites. Et finalement, cela nous rappelle que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, eh bien, c'est ce qui va se passer quand viendra le Fils de l'homme. On vivra une période d'apostasie. Nous baignerons dans une génération perverse et corrompue. Un jour, frères et sœurs, le barrage de la miséricorde de Dieu va finir par céder. Et nous verrons alors ce monde être inondé par la colère de Dieu. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais je sais qu'à n'importe quel moment, le Seigneur Jésus peut revenir. À quel moment Enoch a-t-il marché avec Dieu? Eh bien, Enoch a marché avec Dieu après avoir eu Mathusalem. Pourquoi alors Enoch a-t-il marché avec Dieu? Il a vu la fin arriver, il a été saisi d'une grande crainte. Vous vous dites peut-être en vous-même, je ne crois pas dans la religion qui se base dans la crainte. Pourtant, il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On parle peut-être trop de l'amour de Dieu, pas assez de la crainte de Dieu qui nous pousse à la sanctification. Et l'amour de Dieu, à trop en parler, ça nous ouvre les portes à abuser de la grâce, souvent. Qu'on appelle de l'antinomisme en théologie, d'abuser de la grâce de Dieu. Peu importe les péchés que je commets, Dieu me comprend. Dieu me connaît. Ouais. La crainte de Dieu, ça fait aussi partie de la parole de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 111, verset 10, dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte n'est pas la fin, mais le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu, celui qui ne craint pas le jugement, est un insensé. Jésus dit, craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce n'est pas le diable, ça. C'est Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, est-ce que votre façon de vivre ce matin démontre que vous craignez Dieu? Est-ce que votre façon de vivre démontre que vous craignez Dieu? Ou si votre façon de vivre démontre que vous abusez de la grâce de Dieu ce matin? Lorsque Enoch a eu un fils, il changea complètement. Lorsque notre première fille est née, lorsque Sarah est née, il y a certaines choses en moi qui ont changé, même si j'étais déjà chrétien. Je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, je ne veux pas faire quoi que ce soit qui pourrait être une pierre d'achoppement pour cet enfant. Je veux que cet enfant et tous les autres qui suivent puissent un jour croire en Jésus-Christ. » Enoch marcha avec Dieu après avoir eu Mathusalem. Et je vous invite, chers parents, à marcher avec Dieu. Si les 20 prochaines années ressemblent aux 20 dernières, je ne sais pas à quoi ressemblera ce monde, frères et sœurs. Les gens n'ont pas idée comment le monde a changé en 50 ans. Et j'entends jour après jour que notre société évolue. Eh bien, s'il y a une théorie de l'évolution, je vais vous donner un fait, moi. C'est que la seule chose dans laquelle on évolue, c'est dans le mal. C'est la seule chose dans laquelle notre monde évolue présentement, c'est dans le mal. J'ai 66 ans, reculons 55 ans en arrière, j'avais 11 ans. Il n'y avait jamais personne au Québec qui verrouillait ses portes de voiture. Vous pouviez vous promener sur 200 voitures, il y en avait peut-être 150 dont les vitres étaient toujours baissées. Parce que si tu te faisais prendre à mettre le bras dans une voiture qui n'était pas la tienne, tu faisais 5 ans de prison. Tu pouvais pleurer, faire ce que tu veux devant un juge, tu faisais 5 ans de prison. Tu rentrais dans une maison et vol par effraction. Aujourd'hui, on bénit les gens qui défoncent les maisons. À mon époque, quelqu'un qui rentrait dans une maison, on appelait ça le viol d'un domicile conjugal. Viol d'un domicile conjugal. Tu faisais 15 ans de prison, tu pouvais pleurer, mettre l'argent que tu voulais au tribunal, c'était 15 ans de prison. Mais avant de rentrer dans une maison qui n'était pas la tienne, je peux te dire une chose s'il pensait deux fois. J'ai connu un homme qui avait 16 ans, qui a volé un vélo. Il s'est fait arrêter, il a fait 2 ans à l'école de réforme, dans un centre de détention pour hommes. Il pouvait pleurer, pour garçons, pour délinquants, il pouvait faire ce qu'il voulait, il a fait 2 ans. Aujourd'hui, j'ai été dans la police, j'ai travaillé au service d'aide à la jeunesse. J'ai eu un jeune devant moi, 77e vol de voiture, et on pleure encore de lui laisser une chance pour ne pas le traumatiser. J'ai dû intervenir auprès du travailleur social. Écoutez, vous êtes en train, il est à l'école du crime, cet enfant-là. À quel moment on va lui dire que quand c'est mal, il doit être puni? On est dans une société, frères et sœurs, malade. Et à cause de nos scientifiques, de la technologie, on pense qu'on évolue bien. On évolue vers le mal, frères et sœurs. Et l'avenir n'est pas rose. Je suis moins pessimiste, je ne veux pas non plus envoyer un esprit de suicidaire chez vous. Mais heureusement qu'on a le Seigneur. Moi, je vous dis, à 66 ans, si je n'avais pas le Seigneur, je serais un être extrêmement dangereux dans la société. Avec mon vécu, je serais un être extrêmement dangereux. Il serait préférable qu'on me mette en prison que je reste en liberté. Heureusement que j'ai le Seigneur, parce qu'on est tellement révoltés. Tout près de Dinan, il y a une femme qui s'est suicidée dans sa voiture, qui a mis le feu dans sa voiture avec son garçon, 13 ans et 11 ans. Deux garçons, deux enfants. Parce que son mari est parti avec un autre. Un autre avant-hier en France qui est allé en haut d'une falaise. Il a balancé ses deux enfants en bas de la falaise et s'est suicidé par après. Ça, c'est notre société, frères et sœurs. Les gens qui vivent sans Dieu. Les gens qui ont construit leur rêve sur une maison, sur de l'argent, sur leurs enfants. Ils les ont abandonnés. Et finalement, ils sont désespérément suicidaires. Heureusement qu'on a le Seigneur. Heureusement qu'on sait qu'il est toujours là, qu'il ne nous fait pas défaut, qu'il nous accompagne jour après jour. Et quand on tombe, il est toujours fidèle, toujours là pour nous relever. Le problème, c'est qu'on veut toujours se relever tout seul. Trop souvent, on essaie de se relever tout seul. Et là, on fait l'affaire du diable. Il rit, il se moque. Ouais. Le Seigneur Jésus est là, il est ressuscité, il est à nos côtés. Il a dit, sachez-le, je serai tous les jours avec vous et seul jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Permettez-moi de conclure ce dernier point simplement, en disant simplement que comme Enoch, nous attendons aussi, nous, la fin du monde, la fin de ce monde. Et comme Enoch, nous attendons à être enlevés. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Genèse chapitre 5, verset 24. « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, 6. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit plus la mort, point la mort, pas la tombe, mais l'enlèvement. Pas la tombe qu'il a vu, mais l'enlèvement. Pas la tombe, mais l'enlèvement, frères et sœurs. » Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Les gens l'ont cherché, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Un de ces jours, frères et sœurs, les gens vous chercheront, les gens me chercheront. Ils voudront savoir où nous sommes. Les maris non chrétiens diront, qu'est-il arrivé à ma femme? Elle est allée se coucher hier soir. Et je me lève ce matin et voilà qu'elle est disparue. La femme, la mère qui voudra se lever le matin, qui s'élèvera le matin pour allaiter son bébé, eh bien, elle s'apercevra que dans sa couchette, le bébé est disparu. Elle se demandera qui a enlevé son bébé. Ceux qui voyageront en avion se retrouveront sans pilote. Voyager dans un avion sans pilote, ça va quand tu sais où tu t'en vas, mais si l'enlèvement de Julieu, tu sais pas où tu t'en vas. Hein? Remarquez qu'on dit qu'on est capable aujourd'hui de faire voler les avions sans pilote. C'est simplement pour rassurer les gens qu'on place encore des pilotes dans les avions. Parce qu'à partir de terre, on est capable de faire démarrer un avion et la faire atterrir à l'autre aéroport. Vous dites, pasteur, ça sonne bizarre ce que vous dites. Vous avez raison. Voilà pourquoi je vous ramène dans les Écritures où Jésus dit dans Luc chapitre 17, versets 34 à 36, pour ceux qui ont leur Bible. Luc chapitre 17, versets 34 à 36. Je vous le déclare. En cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. Luc chapitre 17, versets 34 à 36. Est-ce que c'est l'eau de la semaine passée, ça? OK. Non, ça va, ça descend bien. Non, non. Je voulais juste savoir. Mais je l'ai trouvée chaude pour le moment où on l'a eu. Mais... Je vous le déclare, en cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera amenée et l'autre laissée. Deux femmes moudront du grain ensemble.
Non.
L'une sera amenée et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ. L'un sera amené et l'autre laissé. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, versets 16-18. « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ceux qui sont dans leur cercueil, ceux qui sont morts noyés, vont être ramenés. Ce sont les premiers qui vont être ressuscités. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Réjouissez-vous, frères et sœurs. Jouissez même de penser à ce qui nous attend. Parce qu'on va se retrouver sur les nuées à la rencontre du Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours, toujours avec le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous, frères et sœurs. Réconfortez-vous, encouragez-vous par ces paroles. Consolez-vous. Ça ne va pas dans votre vie, prenez-vous ensemble. Pleurez les uns sur les autres, mais rappelez-vous que Jésus revient bientôt. Et que vous serez peut-être en train de vous enlacer, vous partirez. Consolons-nous. L'enlèvement peut survenir à n'importe quel moment. Tout comme Enoch fut enlevé après avoir marché avec Dieu, nous pouvons être pris n'importe quand. Et si vous êtes laissés en arrière, frères et sœurs, que vous n'êtes pas parce que vous n'êtes pas sauvés, parce que vous ne marchez pas avec Dieu, vous allez faire partie de l'armée d'Armageddon qui va combattre. Les enfants de Dieu qui auront alors été emmenés au ciel. En un instant, Enoch fut transformé à la ressemblance de son Seigneur. En un clin d'œil, pourquoi? Parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ouvre une parenthèse de 2 minutes. Frères et sœurs, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Enoch, pour avoir été enlevé, devait être agréable à Dieu, trouver agréable à Dieu, vous pensez que Dieu a changé les règles du Nouveau Testament? Vous pensez parce qu'on a levé la main, on a accepté Jésus, que ça c'est suffisant pour nous faire décoller? Il y a des gens, vous rencontrez des gens qui disent chrétiens, qui vous mordent en plein visage. Ils sont capables de vous fixer dans les yeux. En essayant de vous faire croire qu'ils vous disent la vérité alors qu'ils vous racontent dessus de mensonge. Frères et sœurs, l'enlèvement, c'est pas un jeu. Le salut, c'est pas un jeu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans être agréable à Dieu, nul ne peut voir le Seigneur et nul ne va décoller sur terre quand le Seigneur va revenir. Est-ce que ta vie ressemble à celle d'Enoch ce matin, mon frère et ma sœur? Est-ce que Dieu, en regardant ton cœur, dit « Ce que tu vis, ça me plaît. » Et si mon fils revenait aujourd'hui ou demain, ta place est réservée dans le paradis? On trouve toutes sortes d'excuses quand on pêche. Mais aucune raison de dire qu'en Jésus-Christ, on a la puissance de dire non au péché. On est rendu là dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ah oui, mais je suis faible, hein? Je suis faible, hein? Mais Paul, il dit que c'est quand il est faible qu'il est fort. Et Paul, il dit, bien, je me fortifie en celui en qui j'ai cru. Ouais. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des chrétiens qui baignent dans le péché. Et plutôt qu'essayer de venir voir le pasteur pour dire, écoute, est-ce que tu as des solutions, pasteur, dans la parole pour que je m'en sorte, trouver des excuses. Ah, mais le Seigneur me comprend, hein? Si tu savais le prix que ça lui a coûté, tu as besoin d'avoir du cash, puis en avoir du cash pour que le Seigneur te comprenne, hein? C'est à vous de décider si vous voulez croire ou pas. Rappelez-vous que la foi n'est pas un vœu pieux. La foi, ce n'est pas sauter dans l'inconnu. La foi, c'est de prendre au mot Dieu. Seigneur, tu le dis, j'y crois, et ça doit être une réalité dans ma vie. Maintenant, en contrepartie, on doit vivre une vie qui plaît à Dieu. Hey, c'est pas Dieu, tu me donnes tout, puis moi, je fais ce que je veux. Dieu ne nous demande pas l'impossible, il nous demande de vivre comme il veut. Et il nous a donné la capacité en Jésus-Christ de le faire. À la croix, on a reçu le pardon des péchés. Je ne dirai pas tout ce qu'on a reçu, hein? Mais la délivrance sur le péché. La délivrance sur le péché. La délivrance sur la puissance que le péché exerçait sur moi dans ma vie passée. Il l'a pris. Et il l'a vaincu. C'est pas juste le pardon des péchés à la croix. Sinon, on met la sanctification de côté. Est-ce que la foi est un don de Dieu ou quelque chose que vous obtenez par vous-même? Bonne question, hein? On va essayer de ne pas rentrer dans un débat théologique. En fait, je dirais, moi, que c'est les deux. La respiration est un don de Dieu. Dieu vous a donné des poumons. Et il vous donne l'air aussi pour respirer. Il vous donne l'air pour que vous puissiez respirer, oui. Mais vous pouvez refuser de respirer, frères et sœurs, et vous allez mourir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit, à travers ce qu'on entend, touche notre cœur et qu'on dit oui à ce qu'on entend, eh bien, c'est la foi qui sauve. Mais j'ai la liberté, Dieu ne me forcera jamais à accepter quelque chose que je ne veux pas accepter. J'ai aussi la liberté de dire non. Et là, je dis non à l'offre que Dieu me fait en Jésus-Christ. J'aimerais simplement dire quelque chose rapidement. Frères et sœurs, quand on critique, quand on calomnie, quand on salit les gens, si le jugement n'est pas sur vous, le jugement est sur vos enfants. Faites très attention à ce que vous dites dans vos foyers, sur ce qui se passe dans l'Église, sur des frères et sœurs dans l'Église. Vos enfants, ils entendent tout ce que vous critiquez. Et après, vous leur demandez d'accepter Jésus. Il y a un jugement que vous allez porter sur vos enfants quand vous critiquez, calomniez, salissez des réputations en pensant que vous servez le royaume de Dieu. Faites très attention à tous les témoignages que j'ai des enfants qui refusent d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'ils me disent que tu sais, si tu savais, pasteur, ce que j'entends chez moi, sur l'Église, si c'est ça des chrétiens, moi, c'est terminé. Ne me parle jamais plus de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que vos enfants n'ont pas la foi, ce n'est pas parce que vos enfants ont le cœur dur. Vous les avez endurcis avec votre langue, frères et sœurs. Ouais. Et le jugement retombe sur vos enfants. Après, vous viendrez voir le pasteur demander de prier pour le salut. Ouais. Mais quand je les rencontre, je tombe dans le bas de ma chaise. Hein, quand je les entends, tout ce qu'ils me racontent. Hein. Il y a des gens qui refusent que leurs enfants viennent à l'Église parce qu'il faut que jeunesse se fasse dans le monde. Pouf! On va les ramasser en morceaux, vos enfants. Hein. Frères et sœurs, faisons attention à ce qui se passe dans nos maisons, à ce que nous disons. Paul dit qu'il ne sort de votre bouche que des paroles édifiantes. Édifiantes. Un frère, une sœur vous tombe sur les nerfs, priez pour lui, priez pour elle. Ne le jugez pas, parce que de la même façon que vous jugez, vous serez jugé. Et je peux vous dire, après 32 ans de vie chrétienne, que c'est vrai. Il y a des gens qui ont jugé des gens parce qu'ils avaient trompé leur conjoint. 15 ans, 20 ans plus tard, ils ont fait la même chose. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Il n'y a rien qui pourrait être dit sur vous et sur moi que de marcher. Il n'y a rien de mieux qui pourrait être dit sur vous et sur moi que de marcher, que nous sommes, que vous êtes des gens qui marchent avec Dieu. Il n'y a rien que vos enfants ont besoin plus de voir qu'un père qui marche avec Dieu et qu'une mère pieuse qui marche avec Dieu. Vous vous dites, il est trop tard pour moi, ma situation familiale est catastrophique. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard pour celui qui veut. Pourquoi ne pas ajouter une nouvelle branche à l'arbre familial en donnant votre cœur à Jésus? En donnant votre cœur à Jésus. Montrons que nous avons reçu Jésus-Christ. Montrez à vos enfants que vous avez reçu Jésus-Christ. Marchez avec Dieu par la foi. Vivez en communion avec Dieu. Demeurez fidèles à sa parole. Faisons en sorte que Jésus soit une réalité dans nos vies, afin que nous recevions le témoignage de la part de Dieu que nous avons été trouvés agréables à ses yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.